Micro-ondes.
Une émission qui vous tient à contre-courant.
Tous les deuxièmes et quatrièmes samedis du mois.
À partir de 12h30.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de la lutte,
que de la lutte.
En direct sur Radio Campus Grenoble,
90.8 FM.
Et en streaming et podcast sur le site de la radio. Bonjour. Alors, on est vraiment ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission de Micro-ondes. Alors, aujourd'hui encore, on a un très beau plateau avec plein de personnes qui s'impliquent dans des collectifs militants grenoblois. Alors, bonjour à tout le monde.
Bonjour. Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et donc, ce qui réunit tous nos invités aujourd'hui, c'est qu'ils et elles ont participé au festival La Brèche, une semaine contre le fascisme, qui a eu lieu à Grenoble du 26 au 30 novembre dernier, organisé par le collectif La DRAF. Alors aujourd'hui, on va parler de la montée des extrêmes droites, des idées d'extrême droite et de leurs conséquences, mais aussi des luttes qui sont menées pour les contrer. Et en tant qu'émission de radio, pour nous, c'est particulièrement important de relayer ce type de lutte et d'idées parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler dans les médias mainstream. Et on sait que ces médias, de toute façon, ils sont vraiment contrôlés par une poignée de milliardaires d'extrême droite, que ce soit les journaux, les chaînes de télé, les radios. Et du coup, on imagine bien que ça va influer sur le contenu qui est diffusé, quoi. Et cette mainmise des groupes privés, elle n'est pas du tout freinée par l'État. Donc on peut rappeler que l'ARCOM, l'autorité de régulation des médias radio, télévision et numérique, qui a entre autres pour but de garantir le pluralisme et la cohésion sociale, donc a pas renouvelé l'autorisation de diffuser de C8, une des chaînes de Bolloré sur la TNT. Mais elle a également refusé l'entrée de la chaîne Le Média, qui est une chaîne pour l'instant Internet, qui est indépendante et on va dire de gauche, quoi. Et suite à ça, il y a eu une pétition lancée par cette chaîne et il y a eu aussi un recours devant le Conseil d'État, mais ça n'a rien donné. Et aussi, au niveau des radios associatives, donc ce qui nous concerne directement sur Radio Campus Grenoble, il y a eu une grosse inquiétude. Donc ces radios, c'est un peu quelque chose qui peut garantir une pluralité d'expression, justement. Et donc on a eu très chaud en début d'année quand il y a eu les annonces sur le budget qui annonçait une baisse de 35% du FSER. Donc le FSER, c'est un fonds qui est un peu le principal financement des radios, quoi, des radios associatives. Donc c'était une menace pour énormément de ces radios, mais heureusement, il y a une forte mobilisation et le gouvernement a dû faire marche arrière. Mais cela montre bien quel genre de voix ce gouvernement a envie de voir diffuser, quoi. Alors pour commencer cette émission, on vous propose un petit tour de table pour que nos invités puissent se présenter. Alors on vous laisse la parole, qui c'est qui a envie de commencer? Alors qu'une forêt de mains se lève devant moi. Ok, Euge pour Georges Ibrahim Abdallah.
Bonjour, moi c'est Euge du collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Du coup, Georges Ibrahim Abdallah est un prisonnier politique en France depuis 40 ans. C'est un Libanais qui est en prison et là, en fait, sa libération est toujours refusée par l'État français. Et du coup, récemment, son avocat a demandé une nouvelle fois sa libération et cette fois-ci, ça a été accepté. Donc les gens sont venus nous voir en disant « ça y est, Georges est dehors, est sorti de prison ». En fait, pas du tout. Mais pour la première fois, il y a eu justement sa libération qui a été acceptée. Avec la condition, c'est qu'il quitte le territoire français et qu'il n'y revienne jamais. Mais lui, il s'en fout parce qu'il a envie d'aller au Liban, donc ça, c'est pas un souci. Et c'est la première fois qu'il n'y a pas d'extradition de demander, c'est-à-dire qu'avant, en fait, il demandait une extradition directement vers le Liban et l'extradition, elle était signée par le ministre de l'Intérieur. Et donc, depuis toutes ces années, depuis 1999, en fait, tous les ministres de l'Intérieur refusent de laisser partir Georges Ibrahim Abdallah sous pression des États-Unis et d'Israël. Et du coup, là, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais le parquet antiterroriste a fait appel de la décision. Du coup, le 19 décembre, il y a une nouvelle audience, il y a l'appel qui passe à la cour d'appel de Paris, et ensuite, le rendu se fera plus tard. Voilà, du coup, nous, on a un collectif sur Grenoble pour la libération de Georges et on a participé, c'est pour ça qu'on a participé à la semaine pour l'antifascisme à Grenoble.
Bonjour, moi je suis Inès pour l'AFA Grenoble, donc l'Action Antifasciste Grenoble. C'est un collectif antifasciste qui s'est monté il y a bientôt 4 ans pour lutter contre le fascisme et les idées d'extrême droite d'où qu'elles viennent. Donc au début on s'était créé à la période où il y avait la loi séparatisme et du coup on était beaucoup sur des luttes antiracistes et contre l'islamophobie et on s'est rapidement élargi à d'autres questions. Du coup, on milite de différentes façons, que ce soit en soutenant les luttes locales, en participant aux mouvements sociaux plus globalement. On fait également de la veille et de la diffusion d'idées à travers les conférences, des brochures, des cartographies sur les réseaux sociaux. Et du coup, dans ce cadre, on a présenté un travail sur l'extrême droite et la transphobie. De l'international, national jusqu'au local. Et ça s'est passé justement hier dans le cadre de la semaine de la DRAF.
Justement, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette soirée, cet événement que vous avez organisé hier?
Alors on peut préciser que c'est hier pour nous, mais que ce plateau est enregistré et que pour vous, chers auditeurs, c'était au moins il y a 2 semaines.
Oui, c'est vrai. Je vais laisser, parce qu'on est 2 de l'Action antifasciste, du coup je vais laisser ma camarade mieux vous expliquer.
Alors nous, avec l'Action antifasciste, on a présenté un travail commun avec le GELAC, qui est un groupe qui fait de la veille sur l'extrême droite à Grenoble et environ. Nous, du coup, on s'est intéressé à différentes échelles par rapport à ces groupes, donc de l'international, des méga donateurs au niveau européen par exemple, jusqu'aux partis politiques et associations. On s'est focalisé sur un panorama des associations et groupes politiques au local qui ont pu, au cours de leur histoire et dans leur ligne et dans leur programme, attaquer les droits des personnes trans. Ça, c'est dans un contexte où il y a une montée de la transphobie en France avec la publication de Transmania, une séquence médiatique autour de ça, et donc Transmania qui est un livre d'extrême droite qui s'inscrit dans le mouvement TERF, donc des féministes qui excluent les personnes trans, et aussi une proposition de loi qui est basée sur un rapport de l'Observatoire de la Petite Sirène, qui est un groupe de psychanalystes anti-trans. Donc une proposition de loi des Républicains visant à interdire la transition des mineurs, qui est globalement basée sur beaucoup de désinformation et de fake news sur la condition des enfants trans. Et du coup, on était accompagné ce soir-là de Constance Lefebvre, qui nous a parlé des rhétoriques d'extrême droite. Donc, si tu veux en parler.
J'ai longtemps fait une veille sur les mouvements anti-trans, alors ce qui m'a amené donc à avoir une connaissance assez approfondie justement des différences entre ces groupes, des dynamiques qui existent entre ces groupes. Antagonistes comme alliance, et donc ça faisait sens de m'inviter et j'ai accepté cette invitation à parler le 30 novembre.
Amine, est-ce que tu veux continuer pour la CGT?
Je m'appelle Amine, je représente la syndicate de CGT des travailleurs sans papier de l'Isère. Bon, en ce moment, on prépare des tracts pour rassembler du monde. Donc nous, c'est par rapport au blocage de la préfecture au niveau de régularisation des sans-papiers, des travailleurs sans-papiers. Donc, l'encre n'est pas encore sèche sur la loi d'immigration de Darmanin de fin 2023. Et le nouveau gouvernement en propose une autre plus sévère. Donc, on est là pour lutter. Et merci.
Donc. Merci à toi.
Moi, c'est Demian pour l'Alarme Faune. Donc, nous, on était présents à la soirée du mercredi soir, qu'on a trouvé vraiment très chouette parce qu'elle nous a permis de rencontrer d'autres camarades de d'autres collectifs qui luttent sur les mêmes thématiques que nous. Donc, Alarme Faune, c'est un réseau qui est transnational. C'est un réseau d'activistes de la société civile du sud et du nord de la Méditerranée. On est 300 activistes répartis dans 15 villes différentes de lieux du sud et du nord. Et c'est un réseau qui se bat contre la politique mortelle des frontières pour la liberté de mouvement pour tous. C'est un réseau qui s'organise pour assurer notamment une permanence d'alerte 24 heures sur 24, dont le but c'est de relayer des appels de détresse et faire pression sur des autorités qui sont responsables du sauvetage de personnes en mer. Que la politique actuelle des frontières, elle force à tenter de traverser par leurs propres moyens en prenant des gros risques sur des routes qui sont longues et dangereuses. Donc l'Alarme Faune, c'est un projet qui existe depuis le 8 octobre 2014. Cette année, on fête les 10 ans. Et la date du 8 octobre, elle a été choisie en anniversaire du naufrage de Lampedusa qui avait causé la mort de 266 personnes en 2013. Alors que les personnes, elles avaient appelé les gardes-côtes et que les autorités maltaises et italiennes, elles s'étaient renvoyées la balle et elles n'étaient pas intervenues. Voilà, donc les actions d'Alarme Faune, c'est surtout le maintien de cette ligne téléphonique d'urgence. On reçoit des appels depuis la Méditerranée centrale, la route atlantique, la Manche, la mer Égée, et aussi depuis la frontière terrestre près de la rivière Evros entre la Turquie et la Grèce. Il faut dire qu'il y a aussi une antenne sœur d'Alarme Faune Watch the Med qui est dans le Sahara, ça c'est l'Alarme Faune Sahara. Et le travail, c'est pas seulement le travail de permanence, ça c'est surtout les équipes du Nord qui effectuent ce travail de permanence téléphonique. Pour les camarades du Sud, c'est surtout du travail de sensibilisation dans les pays de départ et de transit, dont la diffusion du numéro d'alerte, sensibiliser sur les risques de la traversée, la météo. Il y a aussi tout un groupe de suivi. C'est une grosse partie du travail de l'Alarme Faune. Donc c'est quand un bateau ou des personnes disparaissent, qu'on ne sait pas ce qui leur est arrivé, où elles se trouvent. C'est du travail de soutien aux familles, d'identification des corps, d'aller chercher les personnes survivantes, arrêter, criminaliser. Trouver des infos. L'Alarme Faune, c'est aussi un gros travail de témoins et de mémoire, donc qui travaille pour la documentation et la preuve de crimes contre l'humanité en mer et aux frontières de l'Europe. Et c'est aussi l'organisation d'événements qui sont à la frontière entre l'hommage et la visibilisation. C'est ce qu'on appelle les commémorations. La dernière grosse commémoration, elle a eu lieu à Dakar cette année, en octobre. Et il y en aura une en février, pour le 6 février, qui a été la date du massacre du Tarajal, où 15 personnes ont été tuées par la Guardia Civile espagnole qui avait ouvert le feu sur un groupe de personnes qui essayaient d'atteindre l'Europe à la nage. Donc nous, on trouvait que ça faisait vraiment sens dans cette semaine sur le fascisme de venir parler du travail d'Alarme Faune et de frontières, parce qu'on la voit, la fascisation... dans les agendas politiques des politiques migratoires européennes. On la voit clairement avec toutes ces idées d'un espèce d'ennemi commun qui serait la personne sans papier qui rejoint l'Europe, avec cette notion de tri des indésirables avec le nouveau pacte migratoire européen qu'on, si on a un peu de temps, on aimerait bien aborder ici. C'est pas nouveau, hein, c'est dans la continuation de toutes les pratiques répressives sur les frontières qui existent depuis les années 90, mais avec toute une nouvelle emphase mise sur le biométrie, le fichage et de plus en plus de technologies au service de l'enfermement, de l'incarcération. Et on voit aussi les liens avec le fascisme sur toute la partie criminalisation de la solidarité et tout ce qui encourage à criminaliser la solidarité, encourager les logiques de délation, l'atomisation des luttes. Voilà, et du coup, nous, on était très contents mercredi de pouvoir être présents avec les camarades de la CGT sans papier. Il y avait aussi les camarades d'Anticralion qui étaient là et les camarades de Briançon. Et on a beaucoup aimé cette soirée.
Et du coup, moi, c'est Laure de l'ADRAF.
Moi, c'est Elio de l'ADRAF.
Et moi, c'est Marie-Lou de l'ADRAF et aussi de Alarme Faune.
Et du coup, la DRAF, ça veut dire autodéfense et réflexion antifasciste. On a un collectif qui s'est monté petit à petit depuis 2021 avec l'envie de décloisonner l'antifascisme, proposer des événements sur des sujets qui nous touchent et sortir de l'isolement et de l'immobilisme face au contexte actuel. Jusqu'à là, on a proposé des soirées sur la question de l'extrême droite, comment la combattre, sur l'islamophobie, sur les frontières, les centres de rétention et sur le complotisme. On essaye différentes formes, des projections, des discussions, des tables rondes, des ateliers, etc. On essaye aussi de sortir de nos réseaux et d'aller dans différents lieux pour être accessible. Et on aimerait bien aussi, mais pour le moment on n'y arrive pas trop, faire des trucs pour les jeunes et les enfants. C'est en tout cas important pour nous de visibiliser des collectifs de lutte, de les mettre en lien, d'ouvrir des espaces de rencontre et de convivialité autour de ces sujets, et de partager des films et des récits qu'on a trouvés importants, s'organiser collectivement et se donner de la force là-dedans. Et du coup, on a organisé la semaine de la brèche du 26 au 30 novembre. Et peut-être je te laisse raconter ce qu'il y avait dans cette semaine.
Génial. Oui, du coup, cette semaine, c'est le fruit de quelques mois de travail où on avait beaucoup été en 2023, début 2024, sur de l'auto-formation entre nous, plutôt. Et du coup, à la suite de ça, on a un peu repéré différents sujets qui nous portaient vraiment à cœur de creuser et de créer des événements publics autour de cela. Du coup, ensuite, on a essayé de contacter des personnes et au fil du temps, le programme, du coup, s'est affiné avec les personnes disponibles et motivées pour faire participer à ce genre d'événement un peu multiple, quoi. Et du coup, on avait quand même la volonté de, comme tu disais, Laure, de mettre en lumière surtout des collectifs de lutte qui combattent concrètement la fascisation au quotidien, la fascisation de la société et sous différentes formes. Et ça nous semblait important d'essayer de faire des liens entre des luttes qui, a priori, ne sont pas forcément liées, mais en réalité, si, puisqu'elles elles subissent. Enfin, les problématiques en question, c'est souvent des oppressions et des discriminations qui sont issues de systèmes discriminatoires qui sont liés entre eux. Bon. Du coup, on a organisé une soirée avec les camarades Kanak qui n'ont pas pu être là ce soir, mais pas aujourd'hui, on n'est pas du tout le soir. Mais, du coup, les camarades du MKF, le mouvement des Kanak en France, du coup, sur la lutte d'indépendance des Kanak, une soirée sur les frontières, sur les luttes contre les frontières et les politiques migratoires. Sur la Palestine, on a organisé un ciné-goûter projetant Wardi, qui est un film d'animation destiné aux enfants. Et on a participé à communiquer autour de l'événement sur la Palestine du GIA notamment, où a été invité Ramzi Baroud, un auteur et journaliste palestinien. On devait organiser une soirée avec Ludivine Bantini, qui malheureusement n'a pas pu venir, mais qui s'est transformée en discussion collective sur le fascisme et comment on lutte, comment on peut faire et c'est quoi nos différentes opinions autour de ça. Et enfin, le samedi, c'était du coup la dernière journée et on a organisé du coup une discussion, une présentation des cartographies des transphobies d'aujourd'hui, du coup, comme présentaient les camarades tout à l'heure, avec un petit repas comme toutes les soirées et une petite boum pour finir la semaine. Voilà.
Et justement, donc on arrive un peu à la fin de cette semaine. Est-ce que vous avez un peu un retour à chaud? Je ne sais pas comment dire. Est-ce que pour vous, un peu, les objectifs que vous étiez donnés, ça a bien fonctionné? Enfin, voilà, est-ce que...
Eh bien oui, plutôt on s'est fait un petit bilan, on était contentes cette semaine, on a l'impression que ça a réussi à croiser. On a réussi à toucher plein de gens, il y avait du monde, ça s'est bien passé. On était contents de notre programmation et d'avoir réussi à être assez transversal dans les thématiques, même si bien sûr on n'a pas pu tout aborder. Et...
On est un peu fatigué, mais ça va. Non, mais c'est vrai que c'était un des objectifs qu'on avait principalement. C'était aussi essayer de faire du lien entre les différents collectifs. Et je trouve ça c'est particulièrement... j'ai l'impression que ça a particulièrement été une réussite sur la soirée du mercredi, sur les politiques migratoires. Et que du coup, ça nous rend un peu contents quand même.
Aussi, une de nos envies, c'est de donner aux gens un peu envie de lutter, et on a l'impression que ça a été le cas.
Trop bien. Bah, merci, en tout cas, encore une fois, à tous et toutes d'être ici présents et voilà, d'avoir... On se fait une petite pause musicale avant d'aborder cette question, et du coup, c'est une première chanson choisie par Euge.
Une chanson de Sidi Ouattcho qui s'appelle « Valse antifascista ».
Es el vals antifascista, lo bailan los guachos, lo bailan las guachas. Es el vals antifascista, no dejaremos de luchar jamás.
En la esquina de un lugar de bar, borracho de idea, me puse a bailar. Tus ojitos de bandida no me dejan de mirar. Brindemos por los que están presos, brindemos por los que no están. Aunque la muerte sea nuestro final, nuestra trinchera.
Antifasciste, t'es motivé, t'es sur la piste. Tu l'enregistres dans la playlist, tu la partages, tu prends des risques. T'es un wokiste, séparatiste, t'es un gauchiste, indigéniste, t'es anarchiste, t'es féministe. Faut que tu fasses gaffe, t'es sur la liste. Tu veux de la valse, tu veux guincher. T'auras du rap, poil à gratter. Ça va kicker, ça va piquer. Y'a des oreilles qui vont saigner. Ils ont la haine des immigrés. Ils ont la trouille d'être remplacés. N'en fallait pas nous inviter, n'en fallait pas coloniser. On est sincère, on est bruyant, on est bavard, on est barbare. On est saoulant, évidemment, on est sympa, mais pas souvent. On refait le monde, il est hardcore. On le critique, on le décore. On le bouscule, on l'améliore. Quand on est plein, on est plus fort.
Et c'est le vals antifascista. Lo bailan los guachos, lo bailan las guachas. C'est le vals antifascista.
Et rebonjour à tous, et donc vous êtes toujours à l'écoute de Micro-Ondes et de Radio Campus, donc le 90.8 FM. On a cette chance d'avoir plein de personnes autour de la table, et on les remercie encore d'avoir fait le déplacement. C'était des personnes qui sont intervenues et qui ont participé à l'organisation de la semaine contre le fascisme, La Brèche. Et justement, à propos de fascisme, on va du coup redémarrer ça avec un petit topo sur cette question pour savoir de quoi on parle.
Oui, du coup, on voulait demander une petite définition du fascisme pour avoir les idées plus claires à Ludivine Bantini. Mais comme on l'a entendu, elle a pas pu venir, il y a eu un problème de train. Mais on a récupéré Guillaume, un camarade historien qui devait co-animer ce moment avec Ludivine Bantini, qui a co-écrit un livre qui s'appelle « Face à la menace fasciste ». Et voilà, on lui a demandé s'il voulait bien faire le job de répondre aux questions qu'on allait poser à Ludivine Bantini. Donc il a accepté, on le remercie beaucoup. Et on va écouter cette première réponse à la première question qu'on lui a posée. Mais qu'est-ce donc que le fascisme ?
Alors, pour définir le fascisme, je dirais d'abord qu'il faut revenir au fait que c'est avant tout une expérience politique et historique située, ce qu'on appelle le fascisme en histoire, en tout cas les mouvements fascistes, les idéologies fascistes. Ça prend naissance dans le contexte de l'après-première guerre mondiale. En Italie, ce qui va s'organiser notamment autour des chemises noires de Mussolini, etc., jusqu'à la marche sur Rome et la prise du pouvoir au début des années 20. qui va donner lieu au régime fasciste, parce que ça vient de fasci en italien, qui étaient les faisceaux d'action, les groupes, les milices de l'extrême droite, quoi. Puis on a un phénomène assez similaire en Allemagne avec le nazisme, similaire au sens où c'est un processus idéologique, et c'est peut-être ça qui définit le fascisme dans un premier lieu, en tout cas qui se présente comme force subversive face au champ politique un peu classique. Donc au moment de l'émergence du fascisme, c'est censé être une réponse au libéralisme d'un côté et au communisme de l'autre. C'était un des vocables utilisés dans les années 30, ça se désignait comme une troisième voie, quoi. Donc ces régimes fascistes qui prennent naissance à ce moment-là, ce qui les caractérise, c'est un projet de bouleversement et de transformation du monde assez profonde, puisqu'il y a la volonté d'ériger une nouvelle humanité. Le fascisme ou le nazisme repose sur une exaltation, une idéalisation d'un peuple, d'une société totale, organique, dont on a expurgé, dont on a retiré, dont on a éliminé tout ce qui était considéré comme impur. Donc en Italie, dans un premier temps, ça va être les militants politiques communistes, anarchistes, etc., qui vont être arrêtés, déportés, éliminés. Puis les oppositions politiques. En Allemagne, il va y avoir tout la question de la pureté autour de la race, et donc les persécutions contre les juifs, contre les homosexuels, contre les tziganes, etc. Bref, contre tout ce qui est vu comme étant un facteur de dégénération de la race. Donc cette volonté de créer une nouvelle humanité, c'est une nouvelle humanité qui va se créer à partir de la violence. La violence est un socle fondamental de l'expérience fasciste, notamment parce qu'elle prend naissance dans la violence complètement mécanisée et industrielle de la Première Guerre mondiale. Donc cette violence va être exaltée pour en faire un socle commun d'action, de pratique, de rapport à la vie. Et puis il y a aussi une manière très idéologique de voir la réalité, de voir le rapport au réel. Souvent on définit le fascisme comme une manière d'arrêter de penser. C'est le moment où on arrête d'avoir de la complexité dans les interprétations et où... Bon, on le voit à l'heure actuelle avec des Trump qui peuvent passer d'une affirmation A à une affirmation B sans sourciller. En fait, la question est uniquement dans la recherche de puissance et dans ce qui donne de la puissance et pas dans un rapport éthique à la vérité, à la réalité, un ajustement entre ces choses-là. Voilà, alors ce qu'on désigne comme la naissance du fascisme, c'est ces moments-là. Évidemment, depuis, il y a tout un tas d'autres mouvements insérés au sein de l'extrême droite qui ont repris ces modalités-là, qui des fois les ont assouplies pour devenir présentables dans un jeu démocratique, comme l'a fait le Rassemblement National, anciennement le FN. Bon, on a des modalités d'adaptation de ce truc-là parce que le monde a changé, parce que le rapport à la violence n'est plus le même, etc., etc., parce que les bouleversements idéologiques et les rapports de force ont aussi changé, donc ont amené à des recompositions. Mais en tout cas, c'est, je dirais, c'est ça qu'on désigne comme étant le fascisme.
Et donc on est de retour sur micro-ondes, on vient donc d'écouter une définition selon du coup Guillaume, un camarade de l'antifascisme. Et voilà, dans un premier temps, on voulait proposer un peu aux invités de compléter cette définition ou de lire un peu des choses qui étaient en lien. Je crois que tu avais quelque chose sous le coude.
Oui, du coup, je suis en train de lire un livre sur le... Alors ça s'appelle « Producteur et parasite ». L'imaginaire si désirable du Rassemblement National de Michel Fehér. Bon, alors je ne l'ai pas fini, alors ça se trouve, la fin, elle est super nulle. Mais en tout cas, ce que j'ai lu, c'était vraiment intéressant parce qu'en fait, quand on parle avec des gens qui votent RN, en fait, on leur dit « Ah, mais vous êtes d'extrême droite », et eux, ils nous disent « Ben non, pas du tout, en fait, je vote RN, mais je ne suis pas d'extrême droite ». Et du coup, je n'arrivais pas à comprendre cette contradiction. Et en fait, en gros, lui, ce qu'il explique, c'est que le RN se positionne au milieu, c'est-à-dire que c'est un peu la classe moyenne productive des travailleurs, et du coup, il appelle ça le producérisme. Bon, son bouquin est super ardu à lire, j'ai un peu galéré, mais c'est vraiment intéressant. C'est très économique, mais en tout cas, il dit que, En gros, les travailleurs français se reconnaissent comme des producteurs et qu'il y a les parasites d'en haut et les parasites d'en bas. Donc en gros, les parasites d'en haut, c'est les rentiers, c'est les spéculateurs, c'est les financiers, c'est le mondialisme, comme ils appellent ça. Et il y a les parasites d'en bas qui sont les sans-papiers, les allocataires du RSA, du chômage et qui ne produisent pas et qui profitent de l'argent des gens qui y bossent, des vrais gens qui travaillent, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant de comprendre en fait pourquoi ils ne se considéraient pas d'extrême droite. Parce qu'en fait, ils se considèrent comme la troisième voie. Enfin, là, ils parlaient de la troisième voie. Ben, en gros, c'est ça. C'est les communistes, les anarchistes veulent vous prendre vos biens. Et les néolibéraux, voilà, ils ne vous permettent pas de vivre de votre travail parce qu'ils vous prennent votre argent par la spéculation et tout ça. Donc voilà, c'était un peu intéressant de lire ça. On peut partir là-dessus si vous voulez. C'était une. Ça amène ça au débat. Voilà.
Inès, vas-y.
Ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est qu'il parle de processus idéologique. Et du coup, processus idéologique, bah, comme il l'a dit vers la fin, en fait, ça peut se renouveler et s'adapter à son temps. Et du coup. On n'a pas le même fascisme que dans les années 20, les années 30, mais le fascisme est toujours là. Et en fait, les idées fascistes sont pas uniquement portées par l'extrême droite, vu que c'est un processus idéologique, c'est qu'en fait, elles traversent la société. Donc certes, les partis d'extrême droite sont à l'avant-garde de ces idées-là, mais en fait, ces idées sont aussi portées ailleurs que juste à l'extrême droite. On peut le retrouver dans le gouvernement ou dans des discours lambda. Et en fait, il y a une sorte de fascisation des idées, un peu constante, qu'on peut retrouver dans la société. Et ta remarque de... extrême droite... Enfin, le RN, c'est plus d'extrême droite ou c'est pas d'extrême droite. Je trouve que ça reflète assez bien ça, parce qu'en fait, c'est des idées qui se diffusent. Et en fait, c'est plus associé uniquement à l'extrême droite. Et en fait, l'extrême droite, c'est un peu un gros mot. Les gens, ils sont là, non, mais moi, je suis pas fasciste, je suis pas d'extrême droite. Et en fait, quand on écoute les idées, ben si... Et du coup, il y a un peu une banalisation de ces idées-là, mais ça passe par les médias, ça passe par plein de choses. Et du coup, les idées d'extrême droite sont ultra banalisées, diffusent dans la société, et ça peut avoir des conséquences directes dans les lois, et dans plein d'autres choses. Et du coup, je trouve que la définition était vraiment intéressante là-dessus.
Ok. Constance, tu voulais rajouter aussi un mot là-dessus ou bien ?
Pardon. Je dirais que quelque chose qui me frappe dans la progression du fascisme, c'est vraiment la banalisation d'une violence et d'une violence organisée, c'est-à-dire l'anticipation ou la réalisation d'assassinats de milliers, de millions de personnes qui ont déjà pleinement le cas aujourd'hui avec la frontière européenne vers la Méditerranée, effectivement, avec la mer Égée. Et puis le détroit entre Malte et puis l'Afrique du Nord, où effectivement il y a des milliers de personnes qui meurent dans l'indifférence la plus totale et dans une indifférence qui non seulement est renforcée par le fait qu'elle est légitimée, il ne pourrait pas en être autrement. C'est le discours dominant qui est porté et c'est un ensemble de violences qu'on va retrouver aussi. Ensuite, par exemple, Trump a beaucoup été l'une des choses sur lesquelles il a été élu, c'est la promesse de déporter, je crois, peut-être 20 millions de personnes. Si je ne dis pas de bêtises, au niveau du nombre, c'est 20 millions. Le parallèle est un peu frappant avec d'autres choses. Alors en France, on a par exemple la rémigration. Alors on parlerait aussi de déporter des millions de personnes, mais aussi... à Gaza, eh bien, il était question d'évacuer Gaza de ses 2 millions d'habitants, mais ce n'est pas ce qui se passe. Lorsqu'on veut se débarrasser de millions de personnes, on tue des millions de personnes. Et c'est cette banalisation-là qui va ensuite alimenter l'ensemble du paysage de la société, du paysage politique, médiatique, vers la banalisation des violences contre un ensemble de populations. Et par exemple, et puis les lois répressives. Et on a vu par exemple qu'avec le 7 octobre 2023, ça a été un point de bascule dans la politique française où on était sérieusement en train d'envisager, par exemple, d'interdire les oppositions politiques si jamais elles n'applaudissaient pas le massacre.
Ok. Pour la suite, on avait envie de vous proposer, parce que j'ai justement une des forces, ou en tout cas un des points un peu forts de ce festival de la Brèche, d'avoir rassemblé, j'ai l'impression, différents collectifs autour de l'antifascisme, et y compris peut-être des collectifs qui ne se sentiraient pas forcément directement concernés par cette question, ou en tout cas de l'extérieur, on ne les sentirait pas directement concernés par cette question. Et donc, on voulait justement vous proposer un peu de nous redire en quoi vous sentez, en quoi finalement la fascisation un peu en cours impacte vos luttes, vos collectifs, et en quoi par exemple participer à ce festival un peu faisait sens pour vous cette semaine. Je sais pas si quelqu'un a un peu envie de commencer sur vas-y Rito pour...
Salut, moi c'est Rito d'Alarmphone. Par rapport à toutes les définitions qui ont été données par les différents camarades du fascisme, nous je pense ce qui nous relie le plus rapidement entre guillemets à cette idée de montée du fascisme, c'est la définition de l'ennemi intérieur, et là en l'occurrence qu'on doit maintenir à l'extérieur avec la figure du migrant qui serait une personne qui viendrait pour voler, pour violer, pour profiter du système européen ou du système français. Et en fait cette rhétorique là elle se traduit en des termes politiques, comme c'était dit plus tôt, toutes les lois et tous les processus d'externalisation des frontières, de surmilitarisation des gardes-côtes, qui sont des institutions qui sont financées par l'Europe à travers aussi ces rhétoriques-là. Dans notre travail quotidien d'activisme à l'Armphone, en fait, on va directement travailler avec ces nouvelles institutions ou ces nouvelles manières de découper l'espace. Par exemple, la mer Méditerranée, aujourd'hui, elle est découpée en différentes zones de responsabilité pour le sauvetage, qu'on appelle les zones SAR. Et clairement, il y a une interaction entre les rhétoriques fascistes de l'Europe et la manière de créer ces zones-là. Par exemple, la zone SAR libyenne a été créée en 2018, et en fait, de fait, elle a limité le périmètre d'action des secours italiens, qui du coup ne viennent beaucoup moins ou même carrément plus effectuer des sauvetages quand ils sont trop au sud. Et ce qui fait que du coup ça laisse à des soi-disant gardes-côtes libyens le pouvoir de faire ce qu'on appelle des pullbacks, donc de ramener les personnes sur la côte libyenne, qui est clairement pas une zone sûre pour ces personnes-là. Si on fait un peu la liste des autres choses, il y a aussi eu un accord avec la Tunisie à 112 millions d'euros en 2023, notamment pour contrôler les flux migratoires. Ou bien récemment, le traité Cutro en Italie, qui a permis le deal entre l'Albanie et l'Italie, et ce qui permet en fait la déportation... qui est censé permettre la déportation express de personnes qui ont été interceptées durant leur traversée au large de l'Italie. Et donc toutes ces choses-là, en fait, elles participent d'une logique de fascisation. Et nous, on est aux prises avec ça quotidiennement, quoi.
Merci. D'autres collectifs qui ont envie de continuer, ou bien Debian, vas-y. Enfin...
Peut-être juste pour, en écho au propos du camarade, de mon camarade d'Alarmphone, de dire que, en fait, toutes les narratives fascistes et racistes qui ouvrent la voie à des mesures et des pratiques totalitaires et fascisantes, elles prennent de la force aussi avec le traitement médiatique. Et elles créent tout un imaginaire avec les mots. Et dans cette idée que la camarade pointait au début de centralisation des droites et des extrêmes droites, il y a aussi... le racisme assumé, pas assumé, l'horreur assumée, pas assumée. Par exemple, ce mot migrant, c'est flagrant quand on analyse les médias. Quand il y a un drame, quand il y a un naufrage, on va voir que là, tout à coup, on va parler de personnes mortes et disparues avec une narrative humanitaire de white savior. Par contre, quand les flics enferment ou repoussent des personnes, quand il y a des demandes d'asile qui sont déboutées, quand on construit des centres de rétention aux portes de l'Europe où on prévoit d'incarcérer des enfants à partir de 6 ans, là, tout à coup, c'est plus des personnes, c'est des migrants. Voilà, peut-être insister sur comment on crée aussi toute cette rhétorique avec les mots.
Peut-être pour les auditeuristes qui ne connaissent pas, tu peux préciser White Savior?
comme le sauveur blanc, non ? Ce même sauveur qui est allé piller, exproprier des pays, coloniser, violer, tuer, et qui maintenant va te sauver quand tu veux rejoindre la forteresse Europe.
Amine ?
Bon, moi, je parle en tant que militant de la CGT des travailleurs sans papiers. En général, la lutte contre le fascisme au quotidien est une démarche essentielle pour préserver les valeurs démocratiques, l'égalité et les libertés fondamentales. Cela implique de s'imposer à l'idéologie fasciste non seulement dans ses manifestations visibles, comme les discours ou les actes de violence, mais aussi dans les formes plus insidieuses qu'elle peut prendre dans la vie quotidienne. Quelques axes d'action. Bah, là, je vous cite 5 ou 6. Donc, on a l'éducation et la sensibilisation, comprendre les origines et les mécanismes du fascisme est crucial pour le reconnaître et le contrer. Promouvoir une éducation qui valorise la pensée critique, la tolérance et le respect des différences permet de déconstruire les préjugés et les discours de haine. S'opposer à la banalisation, comme l'a dit notre Constance, donc de refuser les propos aux comportements racistes, sexistes, xénophobes ou autoritaires, même lorsqu'ils sont déguisés sous une forme humoriste ou banale. Dénoncer et contrer les idées discriminatoires dans les discussions, au travail ou sur les réseaux sociaux. Donc, troisième, c'est de soutenir les victimes de discrimination, et se montrer solidaire des personnes ciblées par les idéologies fascistes ou discriminatoires, en leur offrant un soutien moral et pratique. Participer aux initiatives visant à protéger les droits des minorités. Et l'engagement citoyen, c'est de participer activement à la vie démocratique en votant, en s'informant et en soutenant des mouvements ou associations qui défendent les droits humains. S'opposer à toute tentative d'affaiblir les institutions démocratiques ou l'état de droit. Donc, pourquoi cette lutte est-elle quotidienne ? Car le fascisme peut s'enraciner dans les ordinaires à travers des discours populistes, des fake news ou des comportements normalisés de rejet de l'autre. Lutter contre ces influences exige donc une vigilance constante et une action régulière. Merci.
Merci à toi. Est-ce que d'autres personnes veulent enchaîner ? Oui, Inès ?
Je suis plus trop sûre de la question de base parce que je crois qu'on a un petit peu bougé. Mais ce que je voulais dire, c'était que, en fait, il faut que les gens comprennent qu'en fait, tout le monde va finir par être touché par le fascisme. Certes, il y a des gens qui, ça fait déjà un petit moment, les personnes racisées, les minorités de genre, les musulmans et musulmanes. Mais en fait, on commence à voir, depuis quelques années déjà, le fascisme s'attaquer aux syndicats, aux groupes militants. Là, c'était il n'y a pas très longtemps, je crois, où des syndicalistes de la CGT, il me semble, ont été dans une affaire antiterroriste, ont fait 72 heures de garde à vue. Enfin, du coup, il y a un truc de... tout le monde va finir par être touché par le fascisme, qu'il soit institutionnel ou dans la rue. Ce que tu disais, c'était hyper intéressant de... les idées se diffusent. Enfin, ce que j'avais déjà un peu dit, c'est que les idées se diffusent et qu'en en fait, on n'a plus besoin d'attendre juste l'extrême droite ou l'État, mais que des gens s'organisent pour appliquer, entre guillemets, les idées fascistes. Et du coup, je vais laisser la parole à ma collègue pour un peu plus vous vous préciser tout ça.
Alors moi, j'ai une petite question pour toi, Inès, quand même, pour préciser. Quand tu dis tout le monde, moi, j'ai l'impression quand même, ce qui est une extrême minorité de la population, mais qui est très puissante par ses moyens, va en bénéficier, en fait. Et eux, ils savent qu'ils vont en bénéficier.
Oui, 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 c'est vrai. Quand je dis tout le monde, c'est pas tout le monde à 100%, parce que, de toute façon, le fascisme et le capitalisme, c'est quand même très lié. Il y a vraiment beaucoup de ponts qu'on peut faire entre les deux. Et que du coup, bah, comme tu l'as dit, une extrême minorité de gens, en fait, en bénéficient. En fait, c'est déjà les gens qui... Bah, ils en bénéficient déjà, en fait. Juste, ils vont encore plus en bénéficier. Et, mais quand je dis tout le monde, c'est dans le sens où, en fait... Enfin, moi, j'ai déjà entendu des discours où on disait « Ouais, mais non, mais moi, je suis blanc. » Ça devrait aller. Oui, mais si t'es de gauche. Oui, mais enfin, c'est sûr que tu vas pas. Enfin, là, actuellement, les personnes racisées, elles prennent tarot. Les musulmans et musulmanes, pareil. Les minorités de genre, pareil. Mais à long terme, en fait, beaucoup de gens vont être touchés par ces idées-là. Et en fait, faut pas attendre que tout le monde soit. En fait, ce que je voulais dire, voilà, c'est que faut pas attendre d'être touché soi-même par les problèmes du fascisme. Pour commencer à s'en soucier. En fait, il y a déjà des gens qui prennent tarot depuis déjà très longtemps et qu'on écoute plus ou moins, ou en tout cas, parce que les médias n'en parlent pas tout le temps, mais en fait, des actes islamophobes, c'est à foison en ce moment. Enfin, voilà. Et que du coup, il ne faut pas attendre d'être touché personnellement par le fascisme pour commencer à lutter contre le fascisme. Et qu'en fait, la lutte, elle doit se faire déjà depuis un petit moment, mais là, il faut y aller, là. Enfin, voilà.
Ça marche, merci. Et Esther ?
Moi, je voulais parler rapidement d'antifascisme de rue par rapport, du coup, à comment la montée du fascisme a l'impact notre quotidien. On a pu voir sur la séquence électorale l'été dernier qu'il y a eu une explosion des agressions racistes et LGBTophobes et contre aussi les opposants politiques en France. Nous, à Grenoble, on a un peu cette vision que la ville, elle est épargnée par l'extrême droite et par les groupuscules qui militeraient dans la rue. On a vu, c'était assez inédit, une montée en puissance des agressions à Grenoble aussi, avec des groupes qui attaquent des manifestations de la gauche, des groupes, des individus qui vont venir attaquer des militants qui tractent ou qui font des collages, etc. On a eu vraiment une explosion à Grenoble aussi. On avait cette angoisse que si le soir du second tour Bardella est Premier ministre, en ville, les individus et les groupes d'extrême droite s'en donnent à cœur joie et descendent et font des ratonnades, etc. Ce qui est aussi caractéristique de l'extrême droite, c'est qu'il n'y a pas que les groupes organisés qui passent à l'acte, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de l'idéologie d'extrême droite qui... fantasme la guerre civile, pousse ses militants à s'armer et à pratiquer des sports de combat. Et du coup, on a des individus isolés, c'était souvent ce qui était apparu l'été dernier, voilà, qui ne sont pas connus dans le milieu, on va dire, plus institutionnel de l'extrême droite grenobloise, qui vont s'organiser, des gens assez jeunes en général, et qui vont voilà, se mettre en lien et mener des attaques. Voilà, on avait des membres de groupuscules d'extrême droite qui parlaient de si jamais Bardella passait au pouvoir, on allait pouvoir casser du PD. Enfin, j'aimerais juste qu'on rappelle le contexte anxiogène qu'on a traversé il y a quelques mois, qu'on a oublié bien vite, mais aussi que en fait, bah, sur notamment les minorités racisées, en fait, c'est toujours monnaie courante ces agressions-là. On a des meurtres racistes régulièrement. Il y a quelques jours, il y a eu un père de famille qui a été écrasé par un militant d'extrême droite. Les médias n'en parlent absolument pas. Donc, je vous encourage à vous rapprocher de réseaux communautaires comme Tajmat qui font un super travail de recensement des agressions d'extrême droite sur les populations racisées. Du coup, voilà.
Eugène,
Ouais, par rapport à la Palestine, moi je dirais qu'il y a deux, enfin j'en vois déjà deux volets un peu. C'est déjà Israël est un pays, enfin un gouvernement d'extrême droite. Donc du coup, la fascisation en Israël, elle est hyper présente. Et du coup, il y a un discours de stigmatisation des Palestiniens et Palestiniennes, de dénigrement. Voilà, il y a même, je crois que c'est le ministre de l'Intérieur qui a parlé d'animaux pour désigner les Palestiniens et Palestiniennes. Donc du coup, cette idéologie d'extrême droite, elle est hyper présente. Et tous les gouvernements occidentaux soutiennent l'État d'Israël. Et après, en France, il y a aussi une attaque sur les droits, notamment les interdictions de manifestation. Enfin voilà, après le 7 octobre, on n'avait absolument plus le droit de manifester pour la Palestine. Et en fait, c'était vraiment choquant parce qu'on n'est pas habitué et on se dit qu'effectivement, les droits, en fait, ils disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus, quoi. Enfin non, justement, ils disparaissent beaucoup plus vite qu'ils sont apparus. Et du coup, c'est vrai que la fascisation, nous, on l'a vraiment vue aussi à ce moment-là. Et après, il y a eu toutes les accusations d'antisémitisme de la gauche, et, enfin, contre la gauche et l'extrême gauche. Et voilà, on était judéo-bolchévique avant la Deuxième Guerre mondiale, et maintenant on est islamo-gauchiste et antisémite. Voilà. Bon, du coup, la fascisation, on la voit vraiment au quotidien. Effectivement, ces idées qui sont perméables à tous les milieux, quoi. Donc voilà.
Et eh ben on va refaire une petite pause musicale. On va écouter un morceau de Grâce et Volupté Van Van en featuring avec Klaus Tinto et le morceau s'appelle méchant.e.s.
LGBTQIA+, bien sûr je prends tout au pied de la lettre. Je suis barré, je tiens la poste, je suis pas carré mais triangle rose. Je marche droit sur métronome, je kiffe être sur scène en binôme. Je touche pas terre, si elle est plate, je monte en l'air, j'ai des histoires. Je redescends pas, y'a trop de connards, ils font des zigs, ils font des heim. Vie de quelqu'un, victime de rien, ça fait que se plaindre des impôts. Ça dit de la merde, ça parle trop, ça lève qu'un bras sur les réseaux. Allez sortez les cordes de chasse, lâchez les couacs pour des drive balles. Les femmes font peur dans la police, les genoux qui tremblent, je relève la tête. Et tu te poussais dans les orties, moi aussi je suis complotiste. Laissez-moi vous annoncer que la fachosphère est plate.
Leur cœur est froid. LGBTQIA+, on a kidnappé l'alphabet. LGBTQIA+, achète-toi un nouveau clavier. Une nouvelle seule, mais on est plein. On est partout comme acariens. En talons, sandales et baskets, converge en claquettes à paillettes. Dans leur tête, ça pue la mort. Ils mettent la joie dans le formol. On la voit dans des verres à pied, sous les relèves. Pas prêt à perdre, on sait tenir l'opposition. Les pieds dans le sol, les reins solides. On sait tenir l'opposition. Je lève mon verre quand puis-je préside. Ils sont dangereux par intérêt. Ils gèrent tous les robinets. Quand y'a trop d'eau dans les bassines, bah y'a plus de verre dans les vitrines. Du colibri peut uriner, il ne remplit pas la rivière. Il va chercher la vérité dans les chemtrails de Ryanair.
Quand y'a trop d'eau dans les bassines, bah y'a plus de verre dans les vitrines.
Leur cœur est froid.
J'aimerais dire qu'ils me font pas peur, qu'ils combattent pas perdre. J'aimerais avoir tort, pas faire qu'avertir.
J'aimerais te raconter comment tous mes PD détestent les policiers. J'aimerais te parler d'ateliers secrets, de Gwyn surarmé qui sourit rarement. De mon trap gang, de mon tronçon, que des casse-cou, des connasses à la peau douce, à de ta bête, à la rescousse, grande folle, cagoulée, cagole, venu là pour calmer F de souche. Comme SCH, désactive le livre, je sais que j'ai du pif et que je fais le taf. Quand faut croire qu'on y croit, quand faut dire ça ira, t'en fais pas, je suis là pour chanter qu'on est là. Je voudrais tellement me tromper, te dire qu'on peut espérer. T'es mal à taille du chantier, appelle LGBTP pour bétonner les fafounus. LGBTQIACAB, j'aimerais te dire qu'un jour on va gagner. LGBTQIACAB, j'aimerais te dire qu'un jour on va gagner.
Leur cœur est froid, le sang est bleu, mes aïeux et nazis. Leur cœur est froid, le sang est bleu, mes aïeux et nazis.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble 90.8 à l'écoute de l'émission Micro-ondes, l'émission qui vous tient à contre-courant. Aujourd'hui, un plateau plein d'invités qui nous parlent de fascisme et de leurs luttes diverses et variées qu'on puisse se rencontrer lors du festival La Brèche qui a eu lieu fin novembre. Et on va écouter Guillaume, notre historien que nous avions déjà écouté en début d'émission, si vous étiez déjà avec nous. Et là, la question qu'on lui a posée, c'est est-ce que le fascisme, c'est l'apanage de l'extrême droite ? Inès nous en avait un peu dit quelques mots tout à l'heure. On va voir si les deux sont d'accord. Et on se retrouve juste après.
Alors, je pense pas qu'on puisse dire que le fascisme est l'apanage de l'extrême droite, même si, évidemment, la corrélation historique et politique de filiation, elle est assez évidente. Je pense pas que ce soit l'apanage au sens où, dans ce qu'on voyait en parlant du processus de fascisation, en fait, on voit que le fascisme est la synthèse d'un ensemble de traits caractéristiques. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul détenteur, la seule forme possible d'apparition, d'expression de ces traits-là. Par exemple, pour le dire plus clairement, dans ce qu'on vit depuis la première élection de Macron, on peut noter des séries justement de déplacements institutionnels, de déplacements même idéologiques à certains endroits, de déplacements dans les manières de faire de la politique. Par exemple, toutes les lois complètement racistes qui sont passées ces dernières années sont le programme du FNRN depuis un bon moment. La manière que Macron a pu avoir, par exemple, de provoquer la justice en disant bah, « ils ont qu'à venir me chercher » au moment de l'affaire Benalla, c'était une sorte de tentative de montrer que le pouvoir qu'il incarnait était plus fort que le pouvoir judiciaire, par exemple. Bon, bref, en tout cas, on voit à l'œuvre dans la politique macroniste depuis 2017 un ensemble de traits qui, évidemment, sont indéniablement fascisants. La volonté en permanence de gouverner en s'asseyant sur tout jeu démocratique et contestataire, c'est des traits qui poussent vers des tensions autoritaires, vers cette volonté de passer au-delà de la séparation des pouvoirs telle qu'on la connaît en France. Pour rajouter ou pour spécifier un peu la question, c'est ce que certains chercheurs et chercheuses ont tendance, par exemple, à qualifier d'autoritarisme du capital, ou peut-être une proposition qui, en tout cas, moi, me parle un peu plus, ou me semble assez bien définir ce qu'on vit sous la Macronie, c'est un libéralisme autoritaire. Il ne faut pas oublier que Macron, en tout cas, je suis assez convaincu de ça, que ça reste avant tout un agent de l'économie. Donc, par exemple, tout ce qui concerne ce qu'on avait pu dire autour de la définition du fascisme, le fait d'avoir un corps social organique, par exemple, ça ne fait pas spécialement, voire pas du tout, partie de sa politique. Ce qui régule quand même en grande partie les décisions politiques qui sont prises ces dernières années, ça reste le jeu de l'économie et du capitalisme. Donc, le libéralisme autoritaire, c'est un peu une proposition conceptuelle et politique pour montrer justement que là, on serait dans, en tout cas, une nouvelle forme d'expression des certaines tensions fascistes où, en fait, on va les voir, pour l'instant, en tout cas, dans ce qu'on vit, assez fortement lié quand même encore à des politiques néo- et ultralibérales. Bon, c'est probablement peut-être quelque chose à débattre, mais en tout cas, je pense que les tentations fascistes et les traits fascistes et certaines caractéristiques du fascisme se retrouvent à l'œuvre dans un ensemble d'autres forces politiques qui ne sont pas ouvertement, en tout cas, ancrées à l'extrême droite.
Et vous êtes toujours donc sur micro-ondes à l'écoute de donc de Radio Campus Grenoble et on vient d'écouter du coup une autre proposition de réponse sur la question qu'on a posée du coup à Guillaume sur est-ce que le fascisme est finalement l'apanage de l'extrême droite, et c'est une discussion sur laquelle on avait envie de revenir avec vous autour du plateau. Donc on le rappelle, on est du coup avec tout un tas d'organisations qui ont participé au festival La Brèche autour de l'antifascisme fin novembre. Et voilà, du coup, avec ces invités, on voulait vous rediscuter de ça, c'est-à-dire est-ce que, en effet, le fascisme est juste quelque chose qui est pratiqué, qui est revendiqué par l'extrême droite, et aussi, est-ce que, du coup, on ne lutte contre le fascisme que sur des moments électoraux ou que dans une lutte un peu politicienne. Enfin voilà, comment ça a été déjà un peu été évoqué par Esther, mais voilà, comment on s'attaque à ces idées-là, y compris en dehors des élections. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de rebondir sur ça ? Inès,
juste pour compléter, parce que du coup j'en avais déjà un peu parlé, mais il l'a un peu dit, il me semble, Guillaume, du fait que le vocabulaire de l'extrême droite est réutilisé très largement par le gouvernement, ce qui permet de banaliser ces idées-là. Et il y a une sorte de, je ne sais pas comment dire, pas d'hégémonie, mais presque, de ces idées-là à travers ce vocabulaire-là qui est réutilisé, on peut les entendre des fois par des profs à la fac. Enfin, c'est assez, classique, alors que c'est quand même des idées d'extrême droite, donc ça prouve bien que l'extrême droite, enfin, la fascisation, enfin, le fascisme n'est pas seulement l'apanage de l'extrême droite, mais également du gouvernement qui est autoritaire. Et comme on a pu le voir, notamment avec les dernières lois de Macron, ça fait un petit moment qu'on a Macron, malheureusement, mais du coup, avec les lois, notamment la loi séparatisme, où il peut notamment dissoudre des associations de faits. Et du coup, ça a été un prétexte pour dissoudre des groupes antifascistes partout en France, ou des défenses collectives dans je ne sais plus quelle ville. Enfin, on voit que sous prétexte de lutter contre la radicalisation islamiste, ces lois sont également utilisées à des fins politiques contre des groupes d'extrême gauche qui ne leur conviendraient pas. Et c'était quoi la deuxième partie ? Comment on lutte ?
Comment on fait pour que cette lutte ne soit pas uniquement une lutte politicienne, entre guillemets, de parti ?
Alors, je pense que, en fait, il y a déjà énormément de collectifs qui existent, mais qui galèrent un peu parce qu'ils ne sont pas nombreux, parce qu'on n'a pas de financement, on n'est pas d'extrême droite, donc on n'a pas de financement de plein de milliardaires ou je ne sais pas trop quoi. Et en fait, il faut soutenir, ou si on a le temps, militer dans ces syndicats, dans ces groupes, dans ces associations qui font du travail de terrain, qui risquent à tout moment... Enfin, il y a certaines assos, comme je viens de dire, qui risquent des dissolutions ou des gardes de 72 heures ou des répercussions juridiques à chaque instant où ils font leur travail d'association ou de syndicat ou d'autres collectifs. Et je pense... Ça, c'est une question qu'on réfléchit beaucoup dans mon collectif. C'est... parce que, comme je l'ai dit, il y a un peu une hégémonie de l'extrême droite. Enfin, on l'a vu sur les réseaux sociaux pendant la campagne. Enfin, je ne sais pas si vous avez TikTok, mais bon, j'ai TikTok. J'avoue. Mais il y avait vraiment un truc où il y avait... Enfin, l'extrême droite est très, très forte sur les réseaux sociaux. Et nous, on l'est moins. Et il y a vraiment une guerre. Enfin, pour avoir vu ce qui se passait sur Instagram ou sur TikTok pendant les législatives, pardon. Il y a vraiment cette guerre de l'image, en fait, de qui va avoir l'hégémonie sur les réseaux sociaux, qui va faire le plus de vues, qui va faire... Et du coup, il y a un truc où, là-dessus, on perd, presque. Et c'est un peu triste, parce que j'aimerais bien qu'on gagne. Je pense que la diffusion d'idées... Parce que, du coup, les réseaux sociaux, certes, ça tire plus vers les jeunes, mais en fait... je me suis rendu compte d'un truc. Maintenant, coller des affiches dans la rue, bon, ça marche, mais il n'y a pas énormément de gens qui les regardent. Par contre, il y a les diffs sur les marchés avec, pour toucher des personnes un peu plus âgées que ceux qui ont TikTok ou autre. Mais les réseaux sociaux, il y a vraiment un truc là-dessus. Et l'extrême droite le sait. L'extrême droite met des moyens là-dedans. Et l'extrême droite gagne en hégémonie avec les réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a un truc un peu à réfléchir là-dessus de notre côté, de comment faire pour diffuser nos idées aussi largement que l'extrême droite le fait grâce aux réseaux sociaux, en fait. Donc voilà, donc il y a la lutte sur le terrain, mais je pense qu'il y a aussi une lutte un peu internet, entre guillemets, quoi.
D'autres propositions, d'autres réactions par rapport à ça ?
Ouais, du coup, nous, quand on a discuté de cette question à la DRAF, on s'est dit que l'agenda électoral, c'était... Enfin, les moments des élections, qu'elles soient législatives, européennes, nationales, c'est des moments qui nous permettent de prendre un peu la température parce que c'est des espèces de prises de conscience un peu générale sur ce qui se passe et comment ça évolue. En revanche, c'est pas du tout pour nous là où il faut se cantonner parce que c'est tout le reste de l'année au quotidien qu'on pense qu'il faut pouvoir visibiliser les luttes contre l'extrême droite, contre la fascisation de la société en général. Et si on se cantonne à l'agenda politique, on est complètement sclérosé dans des temporalités qui sont pas les nôtres, quoi.
Ok.
Et en plus aussi, nous, ce qu'on entendait par cette question, c'est que quand on lutte au moment des élections, c'est comme si la réponse antifasciste pouvait se faire que par les urnes. Or, on le sait depuis quand même pas mal de gouvernements qui s'enchaînent, de centre, entre guillemets, comme de gauche, qu'en fait, la fascisation, ils y participent bien largement tous. Et voilà, c'était un peu dans ce sens-là, comment on sort aussi de discours partisans et électoralistes plus généralement, quoi.
Pour ajouter quelque chose et pour un peu répondre, je pense que, en fait, attendre que ce soit l'État qui règle le problème du fascisme, faut pas faire ça, parce qu'en fait, tous les appareils juridiques que l'État a mis en place, soi-disant, contre des groupes d'extrême droite, se sont retournés contre nous également. En fait, quand on attend, par exemple, qu'un local fasciste ferme sous décision de la justice, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un local gauchiste, entre guillemets, enfin, je ne sais pas comment dire, mais ferme également. Enfin, en fait, faut pas oublier que l'État... Enfin, nous aime pas et on l'aime pas. Enfin, c'est pas la folle entente entre les deux. Du coup, faut pas attendre juste derrière l'appareil juridique, parce que c'est se tirer une balle dans le pied. Et après, sur les trucs électoralistes, je pense que, enfin, on est dans un système politique, enfin, dans un échiquier politique très très à droite, où même l'extrême gauche, c'est de la gauche. Et du coup, en fait, je pense que faut pousser nos lignes, quoi. Faut pousser nos lignes plus radicales, et partout où on peut les pousser, on les poussera. Et je pense que faut pas attendre juste les échéances politiques, l'agenda politique, et qu'en fait le travail de terrain il se fait sur le long terme, parce que sinon, ça va être très très compliqué, quoi.
Constance, t'avais aussi une réflexion à poser.
En dehors, en fait, des thématiques qui sont abordées lors des campagnes électorales, il y a beaucoup de sujets qui sont restés assez peu mentionnés par les partis politiques et qui sont pourtant des signaux d'alerte très très importants vis-à-vis de la fascisation et notamment de Macron. Et donc, je ne sais pas, ça n'a pas été mentionné, mais il y a des attaques assez inédite sur la liberté de la presse, en tout cas dans les dernières décennies, qui sont l'œuvre de Macron. Il y a les questions aussi, le discours sur la nation, le réarmement démographique, qui sont quand même très préoccupantes dans la vision de une certaine vision de la nation française. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est promu par des gens supposément libéraux, mais là je pense qu'on sort totalement du domaine libéral lorsqu'on considère voilà, les bébés comme de la future chair à canon. C'est quand même... on ne peut pas comprendre autre chose. Et puis peut-être un troisième sujet qui est très très qui est toujours très préoccupant, qui est celui de la gestion de la crise sanitaire avec le Covid, où il y a des choix politiques qui ont été faits qui ont énormément aggravé la situation, augmenté le nombre de morts considérablement. Par exemple, on voyait bien deux semaines avant le confinement en France, on voyait qu'il y avait des milliers de gens qui mouraient en Italie, des hôpitaux débordés. Et à ce moment-là, le discours, c'était il faut continuer à faire... voilà, la vie économique ne doit pas s'arrêter, alors qu'il était évident que cette situation-là allait venir en France quelques semaines plus tard, et c'est ce qui est arrivé. Et donc le confinement était tardif. Mais ensuite, il y a eu un refus par la suite de mesures sanitaires, pas nécessairement... Alors, beaucoup de mesures sanitaires qui ont été restrictives vis-à-vis des libertés d'une manière qui était très très peu justifiée, et le refus de mesures sanitaires qui, elles, impliquent pas de restriction des libertés, bien au contraire. Qui sont par exemple la question de la promotion des pratiques comme le port du masque, qui reste toujours d'actualité, parce que là en fait en 2020 on avait des centaines de morts de personnes qui mouraient tous les jours du Covid, et aujourd'hui on est toujours à des dizaines et on fait comme si ça n'existait plus. Mais donc voilà, ça vient aussi avec cette histoire de accepter la mort comme quelque chose qui est partie intégrante du fonctionnement de la société, alors qu'on a des solutions alternatives. Et donc il y a des mobilisations sur tout un tas de sujets qui nécessitent effectivement de sortir des logiques électoralistes, parce que ça ne vient pas dans les campagnes électorales.
Oui, Auge.
Toi, tu parlais de bouger les lignes, et je pense que effectivement, par exemple, le PS, qui était soi-disant un parti de gauche, a utilisé beaucoup le vocabulaire de l'extrême droite. Et du coup, ça, les gens de gauche, vraiment de gauche, ça a cristallisé un peu cette séparation avec le PS. Et je pense que ça, c'est vraiment une bonne chose. Parce qu'effectivement, la ligne a bougé à gauche pour certaines personnes. Les autres ont rejoint le macronisme, donc ils sont perdus. Mais en tout cas, voilà, les lignes ont bougé dans ce sens-là. Et effectivement, je te rejoins aussi sur la question sanitaire, par exemple, toutes les questions de santé communautaire et tout ça. Effectivement, il y a des moments où on n'attend rien de l'État parce que c'est pas dans ses intérêts. Donc il faut construire notamment une autodéfense communautaire sanitaire. Et par exemple, et je reviens aussi à la Palestine. En fait, quand l'État va à l'encontre de ce qu'on pense et de la question du génocide en Palestine, on est obligé de s'auto-organiser aussi, parce que c'est Saïd Bouhamama qui disait ça aussi par rapport aux instances internationales comme l'ONU et tout ça. Il dit qu'il ne faut rien attendre non plus de toutes ces instances internationales. Enfin, il ne faut rien attendre. En fait, c'est des rapports de force. Donc si on a un rapport de force favorable, on va obtenir des choses à l'ONU et dans tous ces endroits-là. Si on a un rapport de force défavorable, on n'obtiendra rien. Donc dans tous les cas, il faut en passer par la lutte.
Ben, merci beaucoup. Et alors, on arrive déjà à bientôt la fin de notre émission. Alors, on va laisser un peu de temps pour une dernière musique et l'agenda. Mais avant ça, je voulais voir avec vous s'il y avait des choses très importantes que vous vouliez partager et indispensables avant qu'on se quitte. Ok, les feuilles sont tournées, recto verso. Est-ce qu'on a tout checké sur les feuilles ? Eh bien, alors on va poser une dernière petite question avant de finir avec musique et agenda. Est-ce que vous avez des petites victoires et des bonnes nouvelles à partager pour essayer de finir sur un truc un peu wouh, qui fout la patate? Même si, franchement, la tirade sur l'auto-organisation m'a fait monter des larmes de joie. Mais est-ce qu'il y a des choses
et
que
et
vous
même
voulez
si
partager?
Le festival en soi est déjà une victoire et une bonne nouvelle à partager, mais voilà, s'il y avait d'autres choses. Rito.
J'avais deux petites victoires. Une vachement récente, c'était hier, et on a eu un rassemblement antifasciste à Romans sur Isère. Et de ce que j'ai compris, il y avait plus de 1000 personnes pour la manif antifasciste contre 200 personnes pour les fachos. Bon, ça, c'était une petite victoire dans un contexte pas forcément victorieux par ailleurs. Mais... Et sinon, une petite victoire plus proche de notre travail à l'Armphone. Tout à l'heure, je parlais du pacte Italie-Albanie. Qui a permis de construire des camps de rétention pour procédure express en Albanie, qui a coûté plus de 1 milliard d'euros et qui sont en fait ouverts depuis 2 mois et complètement vides, qui ont accueilli juste 24 personnes pour moins de 48 heures, parce qu'en fait les juges en Italie n'ont pas permis que ces centres fonctionnent. Donc c'est une victoire, c'est plutôt un échec temporaire des politiques d'extrême droite italienne. Et donc pour le moment, c'est une petite victoire de notre côté.
Elio ?
Moi, j'aimerais bien faire un peu la citation, vous voyez, de fin, parce qu'il y a enfin non, pas forcément de fin, vous voyez, mais en gros, Ramzi Baroud a dit un truc à la soirée de jeudi que j'ai trouvé très stylé, qu'on a partagé avec les camarades et qu'on se disait qu'on avait bien envie de redire. Il dit que la seule réponse rationnelle à l'oppression, c'est la résistance, et que face à l'oppression, si on résiste pas, alors on disparaît. Et du coup, moi, c'est une phrase qui, je trouve, pas méga joyeuse, mais que je trouve donne un peu la niaque pour se dire qu'en fait, c'est super tant qu'on est ensemble et qu'on continue à lutter. En fait, l'espoir, il est permis. Et du coup, moi, je me dis que c'est déjà bien.
Oui, la victoire, ça a été justement la demande de libération de Georges Ibrahim Abdallah qui a été acceptée. Et c'est vraiment un truc de fou parce que 40 ans de prison, c'est juste inacceptable. Quoi. Voilà. Donc on espère, on croise les doigts, on prépare les fumigènes. Et ça va être super.
Et bien du coup, avant de se retrouver pour un petit point agenda, on va écouter un dernier morceau de musique qui a été choisi par les camarades d'Alarm Phone. Est-ce que vous voulez nous le présenter?
C'est un morceau de Soul King qui s'appelle Liberté.
Emmenez-moi là-bas. Oui, il n'y a plus personne. Là-bas, il n'y a que le peuple. Che Guevara, ma tombe. Emmenez-moi là-bas. J'écris ça un soir pour un nouveau matin. Oui, j'écris pour y croire. L'avenir est incertain. Oui, j'écris car nous sommes main dans la main. Moi, j'écris car nous sommes la génération dorée. La liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur. La liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la liberté.
Bonjour et re-bienvenue à l'écoute de Micro-Ondes. On termine donc cette émission, donc on vient d'écouter Soul King Liberté, et on termine cette émission autour de l'antifascisme par un petit point sur l'agenda, les prochaines dates d'événements, de mobilisation, et aussi sur, voilà, sur comment on se tient au courant de l'actualité de vos luttes à venir, parce qu'il va y en avoir un paquet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de commencer ce petit tour? Laure, vas-y, pour la draft.
Le vendredi 29 novembre, on devait accueillir Ludivine Bantini, une historienne spécialiste des mouvements sociaux et des révolutions qui n'a pas pu venir. Et donc, c'est reporté au vendredi 21 mars de 2025. Et elle nous a envoyé quelques phrases pour la com, du coup, je peux vous les lire. Nous en sommes là, avec une extrême droite aux portes du pouvoir qui a failli l'emporter. Elle gagnera si on n'engage pas tous les moyens pour l'empêcher. Cette extrême droite est féroce, elle n'a rien abandonné de son racisme ni de sa violence. La discussion tentera d'offrir un argumentaire précis pour démontrer la supercherie et l'escroquerie de partis comme le RN, notamment sur son supposé programme social et dans une dimension internationale. Il ne suffit pas d'analyser, à nous de proposer collectivement des alternatives concrètes pour remettre la honte au racisme, battre l'extrême droite, lutter pour l'émancipation et la justice. Du coup, on ne sait pas encore où ça sera parce qu'on ne l'a pas encore organisé, mais on mettra nos informations sur CRIC Grenoble et ICI Grenoble. Et ça sera le prochain événement de la DRAF, probablement. Il y en aura d'autres et vous le saurez plus tard.
Elio ?
Pareil, ce n'est pas très très clair comme info forcément, mais... je me permets de dire pour les camarades du mouvement des Kanaks en France de Auvergne-Rhône-Alpes que le 11 janvier, il y aura une grosse mobilisation au niveau régional qui sera soit à Lyon, soit à Grenoble. Voilà. Et il y aura de la com de fête sur le réseau qui est Solidarité Kanaki 38 sur Instagram et qu'il faut s'abonner parce que c'est important.
Ok. Marie-Lou.
Pour Alarmphone, comme on l'a dit tout à l'heure, il y aura le 6 février une commémoration, pas exactement organisée non plus, mais ce sera sûrement à Félix Poula le 6 février.
Pour la Fac Grenoble, alors on n'a pas spécialement de date à vous communiquer. Par contre, si vous voulez avoir les infos de ce qu'on fait et ou discuter avec nous sur d'autres choses, sur l'antifascisme en général ou nous rejoindre ou autre, nous avons un compte Instagram qui est AFA Grenoble et sinon un mail qui est afagrenoble@riseup.net.
Et pour la Palestine, le collectif Georges Ibrahim Abdallah, on n'a pas forcément de date prévue ces prochains temps. Par contre, on peut vous inviter à suivre sur Instagram le collectif de Georges Ibrahim Abdallah 38. Et il y a aussi Unis pour la Palestine et Urgence Palestine 38. Et il y a aussi une initiative des féministes contre l'armement et le génocide. Chaque 8 du mois jusqu'au 8 mars. Et du coup, il y a le 8 décembre, le 8 janvier, le 8 février et le 8 mars. Alors, le 8 décembre, c'est passé. Et donc, il vous reste le 8 janvier, le 8 février et le 8 mars pour faire des initiatives contre le génocide et l'armement en Palestine, contre la Palestine. Voilà. Et chaque mercredi, il y a un rassemblement Liban-Palestine.
À 18h actuellement.
Et chaque vendredi, il y a une veillée.
À 18h aussi. Place Notre-Dame.
Voilà.
Mais le mercredi, le rassemblement, il est place Victor Hugo. Après, à voir avec le marché de Noël si ça peut se maintenir ou pas.
Voilà.
Vas-y.
Non, je voulais juste dire que si jamais des personnes veulent écrire à la DRAF, donner l'adresse mail.
Ouais.
C'est adraf38@proton.me.
Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les contacts dans le texte qui accompagnera le podcast sur le site de la radio, ainsi que quelques ressources qui nous ont été partagées par nos invités.
Et on se permettait juste du coup de relayer aussi un événement. Du coup, notre camarade de la CGT Sans Papier a dû partir. Mais donc, il y a une lutte qui s'est passée le 4 décembre, un premier rassemblement. Et a priori, du coup, il y a de nouveau un nouveau rassemblement qui aura lieu à l'occasion de la journée internationale pour les migrations, du coup, le 18 décembre. Voilà, donc un futur rassemblement pour débloquer les guichets de préfecture qui, aujourd'hui, délivrent des rendez-vous au compte-gouttes et du coup, mettent tout un tas de personnes dans la merde. Et c'est un événement qu'on espère couvrir avec micro-ondes pour notre prochaine émission. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Campus et restez mobilisés sur l'antifascisme et autres. À bientôt, merci encore d'être venu sur ce plateau.
Merci.
Merci.
Et à bientôt.